Grainville BM. L'international. Loïc Tassé.
All you're going to do is end up in back and forth and back and forth, and 2 years is going to go up, and it'll go back and forth, and it'll probably be very good for me politically. I could see it being extremely good politically, because I think I'm better at that game than they are.
Eh, mon Dieu. Donald Trump, donc, il dit que le fait que maintenant la Chambre des représentants soit sous contrôle démocrate et que le Sénat soit sous contrôle républicain, ça va créer un va-et-vient, une espèce de jeu de ping-pong. Puis il dit, c'est très bon pour moi, ça, politiquement, le jeu de ping-pong, parce que je suis bien meilleur au ping-pong que eux autres le sont. Bon, alors, Loïc Tassé, bonjour.
Bonjour, Bernard.
Tu restes avec nous, bien entendu, parce qu'on va aller rejoindre Valérie Beaudoin, qui est notre envoyée spéciale pour COGECO en Floride, qui est aussi, je le note, chercheur associé à l'Observatoire sur les États-Unis à la chaire Raoul Dandurand, et dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, Valérie.
Joyeux. Oh, merci, Bernard. Hein,
joyeux anniversaire. Alors, parle-nous donc de cette élection demi-mandat aux États-Unis. Le bilan, tiens.
Oui, ben tu, en fait, les sondages avaient raison pour une fois, si je peux m'exprimer ainsi. La Chambre des représentants qui passe aux mains des démocrates, quand même une bonne majorité. Le Sénat qui reste républicain, mais non seulement il reste républicain, mais on a aussi fait un gain de siège. Alors, c'est vraiment une victoire pour Trump de ce côté-là, parce qu'on a encore plus de pouvoir au Sénat, qui décide entre autres la nomination des juges, on l'a vu pour Brett Kavanaugh, qui a beaucoup de pouvoir aux États-Unis.
Très bien. Alors, lui, il dit, moi, je peux... Alors, on vient de l'entendre, là. Il pense que c'est bon pour lui. Alors, mais soyons de bon compte. Il a quand même tendu la main vers les démocrates. Il a dit qu'il souhaitait travailler avec les démocrates de la Chambre des représentants, là.
Oui, il a commencé très fort son discours devant les médias en disant bon, que c'était une victoire écrasante républicaine. On se demandait un peu où il s'en allait avec ça, parce qu'il a quand même perdu la Chambre des représentants, il faut pas l'oublier, où toute la législature va passer. Donc, toutes les lois, les projets de loi qu'il veut faire passer. Bon, alors, à un certain moment dans le point de presse, il a dit, ben écoutez, moi, je suis prêt, je vous tends la main. D'ailleurs, on a un extrait là, de sa conférence de presse où il tend la main vers les démocrates.
Now is the time for members of both parties to join together. Put partisanship aside and keep the American economic miracle going strong.
OK, ça c'était ce matin là, hein? Ce matin il prend la parole, puis il dit écoutez, il faut travailler au-delà des intérêts partisans pour que la croissance économique se poursuive.
Oui, il dit la croissance est miraculeuse économique. Alors, il se lance quand même la fleur que tout va bien du côté économie. Et c'est vrai que ça va quand même bien l'économie aux États-Unis.
Mm-hmm, très bien. Les démocrates, eux, la prennent comment la soirée d'hier? Alors, ils prennent le contrôle de la Chambre. J'imagine qu'ils sont heureux de ça. Ils doivent être un peu déçus, par contre, des résultats au Sénat, non?
Oui, ben, je suis allée dans un rassemblement démocrate ici où il y avait énormément de gens impliqués, des bénévoles pour, entre autres, l'Association des démocrates de Miami Beach. Et ce qu'ils me disaient, bon, ben, c'est une victoire, faut le prendre comme ça. On a quand même repris le contrôle de la Chambre. Ça fait 8 ans que c'était les républicains qui contrôlaient la législature aux États-Unis. Donc, c'est une victoire, faut le prendre. Et on va de l'avant, on pense déjà à 2020. Donc, ils ont mis un peu les défaites, je dirais, au Sénat de côté. Ils s'y attendaient. Ça allait être très, très difficile pour eux de l'emporter. J'ai parlé à plusieurs partisans. Il y en a une là, qui résume assez bien, là, je vous dirais, l'opinion des gens que j'ai rencontrés hier.
Let's just keep our hopes. You know, we can't just get disappointed and give up. No, this is just the beginning of our 2020 fight.
OK. Donc, on
parlait beaucoup hier de 2020. Les gens semblaient déjà avoir un changement de mentalité en disant « Bon, ça, c'est une chose. On a la Chambre des représentants. On va devoir travailler avec le président Trump pour faire avancer des projets parce que nous aussi, on en a qu'on veut mettre de l'avant. » On pense à 2020. Et il sait, là, Bernard, qu'il y a eu beaucoup de femmes qui ont été élues, qu'il y a eu les premières femmes de confession musulmane qui ont été élues au Congrès américain. Il y a eu les femmes des Premières Nations, un premier gouverneur ouvertement homosexuel. On voit vraiment qu'il y a un côté un peu plus progressiste aux États-Unis qui pointe le bout de son nez. Et pour eux, ils voient vraiment ça comme une bonne nouvelle. Et c'est de bonne augure pour la prochaine élection présidentielle dans 2 ans.
Voilà, c'est ça, 2020, c'est la présidentielle. En terminant, parle-nous de cette altercation entre un journaliste de CNN et Donald Trump?
Oui, ben Donald Trump il a vite mis de côté un peu son ton conciliateur lorsque Jim Acosta, qui est le correspondant principal à la Maison-Blanche pour CNN, lui a posé des questions. Il parlait entre autres de l'enquête sur la Russie. Trump a refusé de lui parler. Il a même dit à un certain moment d'enlever lui le micro. Je veux pas lui parler. On sait que CNN et Donald Trump, c'est vraiment pas l'amour. Mmh. Et ça va en rajouter une couche. On peut entendre, je crois qu'on a un extrait là, de ce qui s'est dit.
Mr. President, are you worried about anything with the Russian investigation because it's a hoax? That's enough. Put down the mic.
Mr. President, are you worried about indictments coming down in this investigation?
I'll tell you what, CNN should be ashamed of itself having you working for them. You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN.
In Jim's defense, I've traveled with him and watched him. He's a diligent reporter who busts.
Well, I'm not a big fan of yours either.
Un journaliste qui prend la défense du correspondant de CNN qui vient de se faire traiter de tous les noms, se fait dire par Trump, toi non plus, je t'aime pas.
Oui, exactement. Alors, le climat entre les médias américains et le président, je vous dirais que pour les deux prochaines années, si rien ne change, ça va rester assez envenimé.
C'est tendu.
Je pense pas que ça va aller en s'améliorant.
Très bien, Valérie Beaudoin. Donc, on vous souhaite un bon retour parmi nous.
Merci beaucoup.
Merci pour la couverture, donc, depuis les États-Unis de ces élections de mi-mandat. Loïc Tassé, si tu prends un peu de recul, qu'est-ce que tu souhaites ajouter à ces résultats?
Oh, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais ce qui est intéressant de regarder, c'est de voir qu'il y a eu une mini-vague bleue, en effet, qui s'est produite aux États-Unis.
Vague bleue étant?
La vague des démocrates. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'endroits qui ont été vers les démocrates. Mais moi, ce qui me frappe là-dedans, et quand on regarde l'ensemble des voix, surtout pour la Chambre, on se rend compte que les démocrates ont obtenu 51% des voix et les républicains à peu près 47% des voix. Donc oui, les démocrates ont une certaine avance à travers tous les États-Unis.
Mais on a vu que la dernière fois, lors de l'élection présidentielle, ils ont gagné la présidence par 3 millions.
Oui.
Mais ils ont quand même perdu la présidence à cause des collèges électoraux.
Exact. Mais il n'y a pas de collèges électoraux en ce moment.
Non, je comprends. Mais le fait qu'ils gagnent le vote populaire hier, ça ne veut pas dire qu'ils gagnent
non,
la présidentielle.
Mais tu as raison. Mais c'est 3 millions encore cette fois-ci parce qu'on pense qu'il y a 114 millions de gens qui ont voté, ce qui est beaucoup pour des élections de mi-mandat.
Ah, OK.
Donc,
bonne participation.
Il y a une excellente participation. Et donc, ça montre que oui, ça
pour avoir une volonté de changement au moment
des élections. Il y a des endroits qui ont bougé plus vers les républicains. Hein. Tu as à peu près un tiers des endroits où ce sont les républicains qui ont fait des gains et deux tiers des endroits où ce sont les démocrates qui ont fait des gains.
Ça m'amène
à mon point principal là-dessus. C'est de dire que ça m'a frappé. J'ai compté, il y a à peu près sur 430 districts, il y en a une soixantaine où la lutte est assez serrée, tu sais, entre 45-55. Mais partout ailleurs, les résultats sont à deux tiers, un tiers, c'est-à-dire
en faveur de l'un ou de l'autre.
C'est-à-dire que c'est extrêmement polarisé.
Oui.
Et quand on regarde la carte des États-Unis, on s'aperçoit qu'en effet, c'est non seulement polarisé à l'intérieur même de chacun des districts électoraux, mais c'est aussi polarisé entre les grandes villes, avec la Nouvelle-Angleterre, le sud du sud, c'est-à-dire le sud, par exemple, du Texas, la côte de la côte ouest, qui vont aux démocrates. Mais partout ailleurs, les petites villes, les endroits ruraux, ça va aux républicains. Et donc, on a un pays qui est vraiment extrêmement polarisé. Et ça, c'est un peu
la religion aussi joue, la religion.
Oui, parce que ce sont des endroits où il y a beaucoup de... Évidemment, il y a beaucoup de religions, il y a beaucoup de baptistes aussi dans toutes ces régions-là.
Donc, dans les régions républicaines, la religion évangéliste, baptiste, elle est très,
très forte,
très fortement implantée.
Exactement. Et, et c'est là qu'on voit que les républicains sont toujours très, très forts. Regarde aussi au niveau des gouverneurs. C'est intéressant, on n'en a pas parlé.
Est-ce que la gouverneure, en passant, afro-américaine, là, qui se présentait, si je ne m'abuse, en Georgie, qui aurait été la première gouverneure afro-américaine de l'histoire?
Elle n'a pas encore concédé je ne pense pas qu'elle ait été élue encore, hein. Je voudrais regarder
très bien, on va vérifier ça.
Il faudrait vérifier, mais ce que moi je voulais te dire, c'est que les républicains ont quand même perdu 7 gouverneurs à l'échelle des États-Unis. Et donc, il y a en ce moment 27 républicains qui ont été élus comme gouverneurs contre 22 démocrates. Et ça, c'est très important, les gouverneurs, parce que avec le nouveau recensement, c'est eux qui vont aussi redessiner la carte électorale, en tout cas, qui vont mettre leur veto sur le redécoupage de la carte électorale. Et on sait, que les républicains ont fait beaucoup de gerrymandering à travers les années. Pour les gens qui ne savent pas trop ce que c'est-à-dire c'est un découpage électoral extrême qui permet aux républicains de gagner des comtés en allant chercher un bout de rue ici, un autre bout de rue là, etc.
Tu dessines le district pour t'avantager.
Pour s'avantager.
Ben, les républicains l'ont fait, je pense que les démocrates l'ont fait aussi.
Beaucoup moins. Ouais. Ils l'ont fait aussi, mais les républicains sont vraiment des champions là-dedans. Et c'est pas, je dis pas ça de manière partisane, là. C'est malheureusement un fait pour les républicains. Donc, ça va être très intéressant à voir. Et l'autre chose, c'est qu'est-ce que les alliés des Américains vont faire? Parce que les gens regardent ça en Europe et se disent, bon, Trump semble arrêté pour le moment, mais qu'est-ce qui va arriver avec les négociations?
Objectivement, il sort affaibli hier. Là. Il perd quand même le contrôle de l'une des deux chambres. Là. C'est quand même pas rien. Même si la majorité républicaine au Sénat risque d'augmenter un petit peu, il y avait déjà une majorité républicaine très mince, mais elle était là quand même. Là, veut pas, en perdant la Chambre des représentants, tu perds le contrôle sur l'argent.
Le budget.
Le
exact.
Budget, voilà.
Et sur les enquêtes, la Chambre des représentants va pouvoir lancer des enquêtes, va pouvoir demander les impôts de Trump, va pouvoir sortir des documents que les républicains avaient enterrés. Ça aussi, ça va être très important. Et Trump a menacé encore en conférence de presse les démocrates, a dit si vous faites ça, il n'y aura aucune négociation, aucune collaboration.
Si vous quoi?
Si vous lancez des enquêtes sur moi, si vous sortez mes feuilles d'impôts, etc., je vais m'y opposer. Mais en politique extérieure, il va tout contrôler. Il y a beaucoup de gens en Europe qui se disent « Oui, mais est-ce qu'il ne pourrait pas provoquer des crises à l'étranger, négocier plus durement à l'étranger pour justement détourner l'attention de la politique
mais
intérieure américaine ?»
Mais il le fait déjà, ça. Il le fait déjà.
Encore plus. Est-ce qu'il le fera encore plus?
Parce qu'il a une Chambre des représentants conflictuelle ou... pas conflictuelle, mais d'opposition.
D'opposition et surtout une Chambre des représentants enfin, où tu pourrais avoir des démocrates qui pourraient montrer des côtés pas très jolis de toute la des compagnies de Trump, etc.
Ouais. Alors donc, ce qu'on peut conclure, c'est qu'il sort affaibli, mais la scène politique américaine, elle, pourrait être encore plus... conflictuel, là le mot est approprié qu'elle ne l'était auparavant, parce que là les démocrates ont le pouvoir maintenant de prendre des initiatives de par le contrôle de la Chambre qu'ils ont, et donc de peut-être d'aller fouiller dans les affaires personnelles pour essayer dans le fond de lui nuire en prévision des élections présidentielles.
Mais je pense que c'est le grand objectif.
Ouais. Et évidemment, mais moi je veux dire les démocrates là, attaquer Trump, je veux bien là, mais trouvez-vous donc un candidat ou une candidate digne de ce nom pour la prochaine campagne.
Je sais, hein? Je voyais Pelosi, c'était pas fort, hein, la télé, etc. Madame Pelosi, c'est dans la population en plus.
C'est la majorité.
C'est la majorité démocrate à la Chambre des représentants.
Ouais, ouais, ouais.
Et c'est sûr qu'ils n'ont personne. Il faut espérer pour eux que parmi les nouveaux qui viennent de se faire élire, il y a quelqu'un qui va ressortir. Tu sais, Obama, personne ne le connaissait 2 ans avant les élections présidentielles en 2008. Donc, peut-être que quelqu'un va sortir. On verra bien ce qui va arriver avec tout ça.
Et il y a eu, juste en terminant, un proxénète qui a été élu dans le Nevada.
Dennis Hoff.
Après sa mort.
C'est plus qu'un proxénète. Il était le propriétaire, littéralement, de bordel au Nevada. Et le pauvre, il est mort pendant la campagne.
Mais il a été élu pareil.
Il a été élu quand même. Les gens ont voté pour lui majoritairement. Mais il est républicain.
Une bonne majorité, 63%.
Oui, 63% des gens.
OK.
C'est la majorité silencieuse.
Ouais. OK. Salut, à demain.
À demain.
Paul Oud, s'amène.